Pascal!
Yannick!
As-tu eu le temps de sortir ce midi, toi?
Non.
Tu poses un 10-15 minutes?
Non, j'ai enfermé ici dans l'hôpital psychiatrique dans lequel on travaille sur notre studio.
Un petit 15 minutes là, de température adéquate. Ah,
mais ce matin, c'était déjà adéquat, j'imagine pas tantôt. Là.
24-25 degrés, c'est ce qu'on a actuellement. Wow. On nous annonçait un 26 pour aujourd'hui comme maximum, donc on devrait l'atteindre dans les prochaines minutes. Dégagé pour ce soir, minimum de 9 demain. 30% de probabilité d'averse en après-midi, mais demain matin, ce serait ensoleillé avec un maximum de 21. Pour ce qui est de vendredi, ce serait de la pluie maximum de 21. Et ce week-end, bon, c'est le temps de changer, mais on nous annonce de la pluie pour ce week-end. 31 mai et 1er juin, déjà le mois de juin. Ah, bye bye. 418-971-1021 s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. J'essaie de faire plusieurs choses en même temps, dont de mettre en onde notre chum Louis Gauthier qui est là, qui est sur le bord d'un lac, là, quelque part dans un gros VR. Il y en a qui en profitent plus que les autres, hein, Pascal?
Ah, il y en a qui sont chanceux, oui, mais VR pour le travail ou VR pour la plaisance?
Ben là, il travaille présentement, ah, il va nous parler. Ben oui, ben quand il me dit « Yann, je suis en vacances », je dis « OK, c'est beau, je t'appelle. Salut Louis Gauthier! »
Je suis pas en vacances, j'essaie de prendre une retraite.
Là, t'es dans le coin de la Batiscan, c'est ça?
Ah, la Marina Village Batiscan, c'est un site de camping, je te dirais, pratiquement privé, là.
Ouais.
Pour les 55 ans et plus, près de la rivière Batiscan et du fleuve Saint-Laurent, là, pour les gens qui connaissent ce secteur, là, c'est juste le pont de métal sur le 138 avant d'arriver à Batiscan. Alors, c'est très bien. On est très heureux. Ça fait depuis quoi? C'est notre cinquième saison qu'on a installé la grosse babelle ici.
Là, tu es avec des électeurs de la CAQ, de ce que je comprends, là, pour les 55 ans et plus. Là. C'est vous autres qui votez pour la CAQ? C'est vous autres qui votez pour les libéraux? Là. C'est vous autres qui nous avez mis dans le trouble de même? Là?
Moi, je dois dire qu'ici, là, à jaser avec les gens, parce que les gens me parlent souvent là, des chroniques, des sujets dont on parle et tout, c'est loin d'être des électeurs de la CAQ, ben de François-Philippe Champagne, qui est le député fédéral du coin. Là.
Mais qui vote pour la CAQ, là?
Ben, c'est tous ceux qui portent encore peut-être des masques, c'est peut-être tous ceux qui se font vacciner aux 6 mois, puis que ce qui se passe à la SAC, c'est pas plus grave que ça. Ça prend quelqu'un pour payer, ça prend quelqu'un pour faire la job, puis les méchants médecins, ils travaillent pas à leur façon, ils travaillent pas au summum de ce qu'ils pourraient accueillir comme patients dans une journée. C'est tous ces gens-là qui portent des commentaires, mais de façon silencieuse, en groupe, en jouant pickleball.
OK!
La nouvelle tendance.
Ouais, puis les gens qui jouent au ballon chasseur, là, comment t'appelles ça? Pascal?
Le dodgeball, moi,
dodgeball,
j'aime
êtes-vous
bien
des
ça.
Électeurs de la CAQ, vous autres?
On met pas ça dans le même paquet.
C'est pas la même chose.
Non, c'est les Millennium qui jouent à ça.
Non.
Hey, Louis Gauthier, on parle du fameux dôme doré. Explique-nous, c'est quoi le dôme doré? On en est rendu où avec ce fameux projet-là? Et pourquoi, pour les Canadiens, ça pourrait coûter au-dessus de 60 milliards de dollars?
Bien là, tu m'as posé plusieurs questions. Alors, deux réponses très simples. Ça se trouve être le bouclier antimissile qui relève de Ronald Reagan dans les années 80, juste avant le terme de la guerre froide. Et ça n'a pas eu lieu. Le 60 milliards de dollars, ben il faut juste calculer un petit peu, hein, parce que hier, le boss de l'OTAN a parlé que la contribution des pays membres de l'OTAN qui devaient donner 2 à 3 % de leur PIB, alors que le Canada en a 1,7 % devrait passer dans les discussions lors du G7 à 5 % Donc, ce 5 %-là représente quoi? Sur 5 ans de construction du fameux dôme doré de Donald Trump, c'est 61 milliards de dollars. De là, le montant que Donald Trump a sorti hier en disant que ça ne vous coûtera rien si vous étiez le 51e État. Mais il a parlé de ça parce que le roi Charles a parlé d'un « strong and free Canada ». Alors, lui, il a relancé ça tout de suite en disant, ben écoutez, ça va vous coûter 61 milliards de dollars pour vous protéger. Puis 61 milliards de dollars, ben il n'a pas inventé ça de même, garoché ça dans les airs pour absolument rien. C'est la contribution du Canada dans sa contribution aux forces de l'OTAN. Puis avec les retards qu'on connaît depuis ce temps-là, ça ne sera jamais fait.
Dans le fameux dôme doré, là, est-ce que c'est l'Amérique du Nord? Donc, est-ce que c'est le Canada, les États-Unis et le Mexique qui seraient intégrés au dôme doré ou uniquement le Canada et les États-Unis?
Ce serait les trois pays de l'ALENA que j'appelle de l'entente Canada, Mexique,
OK.
États-Unis.
Donc,
Donc, ce serait le Mexique, les États-Unis.
de là, le 175 milliards de dollars. Et ce qu'on veut, en fait, avec ce fameux dôme doré-là, c'est bloquer les menaces russes et les menaces chinoises. Très peu de gens le savent, mais j'aime bien le rappeler, là. Si jamais les Russes veulent attaquer les Américains, ça passe par le nord et ça passe par-dessus nos têtes à nous autres pour se diriger vers Washington ou pour New York, exemple.
Il faudrait rappeler que l'État de l'Alaska, qui était le dernier État à rentrer dans l'État de l'Union américaine, appartenait à un richissime russe. Puis les États-Unis l'ont acheté justement parce qu'ils obtenaient beaucoup à l'époque, là, quand c'est pas devenu, quand c'était pas encore un État, obtenait beaucoup sa marchandise des États-Unis et du Canada. Donc, à ce moment-là, on prévoyait, ben là, on va acquérir tout de suite l'Alaska parce que l'Alaska, c'était la porte d'entrée vers les steppes scandinaves et tout ce que tu veux, qui était plus à l'ouest. Donc, c'est, oui, il y a un lien naturel de communication avec les mers au nord et tout, où on ne protège pas assez avec nos chaloupes qui prennent l'eau. Alors, c'est ça qui titille un petit peu le président américain.
Mais ça s'en vient une priorité pour le Canada, par exemple. Tu le vois aussi au niveau des activités des forces armées canadiennes. Il y a quelque chose qui a changé dans les 5 dernières années, là.
Oui, ça a changé. On voit Mark Carney avec le discours du trône hier, que c'est carrément, ben, comme votre invité précédent disait, c'est quasiment un gouvernement conservateur qui aurait pu faire la lecture de ce discours du trône-là hier. Mais ça revient à ce que j'ai déjà dit. Mark Carney est en train de ramener les libéraux vers le centre alors qu'ils étaient beaucoup trop à gauche sous Justin Trudeau. Donc, c'est un peu normal parce que le gouvernement conservateur, lorsqu'il y a eu gouvernement conservateur, se tenait beaucoup plus vers le centre-droite, comme c'était à l'époque de Brian Mulroney. Donc, le Canada, le style de gouvernance au Canada est un gouvernement de centre. Donc, on en a pour nos investissements de taxes, on est censé avoir nos services. Malheureusement, on a tellement pris de retard depuis 20 ans à tous les niveaux, c'est que là, on va essayer de faire de prendre tous les moyens nécessaires pour essayer de relancer l'économie canadienne, de faire de la construction, de trouver de l'emploi pour tout le monde, de maximiser les postes de la dotation au plus possible pour donner les services à l'ensemble de la population, qui, soit dit en passant, a énormément grimpé là, de 8 millions de personnes depuis 6 ans, là. Donc, c'est sûr qu'il va falloir construire des chambres d'hôpital, puis
Ouais.
offrir des services à toute cette
C'est ça.
population-là.
Mais si on revient au fameux dôme doré, là, tu sais, tout ce qu'on veut au Canada et aux États-Unis, c'est renforcer le NORAD. Est-ce que Mark Carney a démontré une certaine ouverture au dôme doré de Donald Trump?
Bien, écoute, hier, lorsqu'il a été questionné dans une émission anglophone sur les ondes de CTV, il a dit qu'il allait contribuer de façon rationnelle au NORAD, à l'OTAN.
Ça dit
Mais
pas
qu'est-ce que ça
grand-chose.
veut dire,
Mettons que je vais au restaurant puis je dis à ma blonde, c'est-tu 50-50? Puis elle me dit, non, je vais contribuer de façon rationnelle.
Soit avec tout le maquillage et le coup que ça a dans mon visage ce soir-là.
Ça commence à m'angoisser, là. Ça
Oh.
m'angoisse. Ben, c'est un discours qui dit
Exact.
absolument
C'est
tout et qui
ça.
dit absolument rien.
Toi, c'est quoi qui dit tout là-dedans?
Ben, tout, c'est que comment veux-tu avancer un chiffre lorsqu'on n'aura pas de budget après la lecture du discours du trône, qu'on ne l'aura pas avant le mois de septembre, si bien entendu on l'a au mois de septembre. OK? Moi, c'est jamais arrivé dans l'histoire canadienne qu'un gouvernement rentre en place, on a un discours du trône, puis on n'a aucune lecture du budget, on n'a aucune. La seule chose qui s'est dit hier, c'est ce que le gouvernement va faire, c'est son manuel d'instruction, mais on n'a aucun coût rattaché à ça. Donc, c'est pour ça qu'il va utiliser des mots vides comme contribution rationnelle. T'sais, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand je parle d'un tout, c'est tout ce qu'on a appris hier, c'est ce que ça vient dire, ce que je viens de dire là. C'est qu'il ne peut pas avancer un chiffre, il n'y a pas de budget. Puis quand on va avoir le budget, attachez votre sucre, ça risque de nous coûter cher parce qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites dans la campagne électorale. Puis c'est ce qui est en train de C'est ce qui est en train de, c'est ce qu'il a discuté hier dans le discours du trône, c'est ce qui s'est dit. Mais maintenant, ça va être un coût de combien, sais-tu, Est-ce qu'on va défoncer le budget de l'an passé de 225%? On ne le sait pas. Mais lorsqu'on calcule tout ce qui s'est dit, ça ressemble à beaucoup, 225% de plus de ce qui s'est fait lors de la dernière lecture de la mise à jour économique.
On continue de parler du géant orange l'autre bord. Harvard versus Trump. Trump a demandé, en fait, Trump veut plus qu'Harvard reçoive des étudiants étrangers. C'est quoi le problème avec ces 10 étudiants étrangers-là? Pourquoi ça le dérange tant que ça?
Le problème à la base ne sont pas les étudiants étrangers. Le problème, c'est Donald Trump contre les universités qui sont un peu trop à gauche. Et Harvard fait partie de ceux-là. Il n'y a pas seulement Harvard, c'est parce que c'est l'université réputée aux États-Unis et à travers le monde. Donc, on frappe sur ce gros clou-là.
Mais depuis quand le présidentiel se mêle de tout ce qui est institution d'enseignement? C'est particulier, là.
Bien, c'est pas qu'un président s'en mêle, c'est peut-être parce que les universités sont subventionnées à coût de 100 millions de dollars par année par Washington.
Oui, mais ils peuvent pas commencer à subventionner selon leur façon de faire de la politique non plus. T'sais, c'est à équité, à égalité dans le pire des cas ou encore selon des projets. C'est là où je pense que les gens comprennent pas nécessairement.
Mais dans ce dossier-là, c'est vraiment une partie de bras de fer. Même que le gouvernement va mettre les services secrets, ils ont laissé savoir qu'elle permettre aux services secrets de vérifier les comptes de réseaux sociaux des étudiants étrangers pour voir s'ils sont pas aux États-Unis ou s'ils ont l'intention de venir aux États-Unis. Le but des étudiants étrangers là-dedans, c'est de faire une pression sur l'université pour changer ses politiques d'intégration parce que ça donne trop de place.
Ouais. Mais la Cour suprême des États-Unis avait demandé aussi de cesser la discrimination positive il y a 2 ans, puis Harvard a fait fi de ce jugement-là et continue à travers ses universités à faire de la discrimination positive, c'est-à-dire le mâle blanc d'Amérique va passer 2e parce que nous, on doit avoir une meilleure représentativité des autres cultures dans notre université. C'est ça un peu qui choque Trump et son administration?
Ben oui, c'est ce qui choque, mais tu sais, il faut pas se surprendre de Harvard. C'est sur tous les campus universitaires, dans toutes les villes universitaires où on a ce genre, de motus operandi là, de tasser l'homme blanc caucasien sur le côté pour laisser la place aux autres. Écoutez, j'ai fait mes études au Manitoba, à l'Université du Manitoba. J'y suis retourné l'an dernier, comme vous le savez. C'est pas le même campus qui m'a vu grandir académiquement, là. T'sais, j'avais vraiment pas ma place là. Je me sentais vraiment minoritaire dans une ville qui m'a vu grandir au début de ma carrière, là, quand j'avais 20 ans. On le voit, le changement. On l'a vu, le changement. Donc, oui, ça l'a agacé, je te dirais, la base électorale de Donald Trump. C'est un message qui est envoyé au président. Puis le président a décidé de frapper sur le clou pour peut-être apaiser. Donc, là, on voit qu'il frappe un peu partout. On voit qu'il frappe le dôme, on voit qu'il frappe tout. Mais il y en a une qui panique pas là-dedans, qui est très, très calme, c'est la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum. Moi, je suis en train de me demander, même si c'est une socialiste, c'est quand même une émule de Andrés Manuel López Obrador, qui était son successeur, qui ne pouvait pas se représenter comme président après 2 mandats. Donc, elle est là, c'est une ancienne mairesse de la ville de Mexico. C'est une personne qui est très, très calme, qui n'a jamais réagi contre les menaces de Donald Trump, qui parle tout le temps du même ton. Puis, j'ai l'impression que ça envoie un sens de communication qu'il va avoir lors de la réunion du G7 et que Donald Trump va participer à cette réunion-là. C'est peut-être le genre de discours qu'on va tenir avec lui pour le calmer. Donc, je suis en train de me demander si la méthode Sheinbaum n'est pas en train de s'inculquer à l'ensemble de la table du G7 pour contrer les menaces tout le temps, peut-être frivoles, peut-être réelles, de Donald Trump lors de la réunion du G7 qui va avoir lieu à Kananaskis au mois de juin.
Ça finit plus. On parle du Grand Orange tous les jours. Ça finit plus.
Ben écoute, c'est normal. Je vous l'avais dit que ça allait changer. Le retour de Donald Trump allait changer énormément de choses sur la grande boule qui est la Terre. Puis, on va entendre parler de lui à tous les jours jusqu'en 2028, lorsqu'il y aura un nouveau président qui sera élu. C'est sûr qu'à tous les jours, on va en entendre parler parce que c'est le sujet de conversation qui nourrit tellement présentement qu'il y a une incidence sur à peu près tout le monde, dans le quotidien de tout le monde, que ce soit en Ontario et tout ça. L'histoire des tarifs, c'est même si les tarifs ne sont... Il y a encore fait des suspensions de tarifs, puis les gens en parlent encore, les gens ont peur. On voit les publicités qu'il y a eu en Estrie pour attirer les touristes américains, les Américains qui font de la publicité pour attirer les touristes canadiens cet été. On voit que ça a bougé énormément de choses, à un point tel que ça a ramené le gouvernement du Canada, le gouvernement libéral, sur un quatrième mandat,
ouais,
en promettant de revenir vers le centre. C'est pas rien, là.
Hey, mais on parle beaucoup de Donald Trump, on parle beaucoup de ce temps-ci. Je sais pas si au Canada c'est le cas, mais la sénilité de Joe Biden et la gérontocratie du côté des démocrates, c'est assez particulier tout ce qui se passe aux États-Unis concernant Joe Biden. Il y a un livre qui a été écrit aussi sur l'histoire.
Oui, on en a parlé la semaine dernière.
À savoir que le gars était complètement sénile, puis on voulait quand même s'en aller avec lui pour qu'il soit président des États-Unis d'Amérique. Quel irresponsable! Quelle bande d'irresponsables!
C'était tout sauf Trump. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'un des écrivains dans ce livre-là, Jack Draper, c'est un journaliste qui était justement attaché à la Maison-Blanche, qui a fait partie de du camouflage médiatique, qui s'est rendu compte de ça tous les jours pendant qu'il était là, puis qui a décidé d'écrire un livre sur quelque chose que tout le monde disait tout bas sans le dire, pensait tout bas sans le dire tout haut.
Non, il s'est excusé aussi d'avoir participé à cette manigance-là.
Mais les dommages, tu sais, est-ce que ça a causé des dommages? Oui, parce qu'il faut regarder la capacité financière de chaque citoyen américain, de chaque citoyen à travers le monde qui a été affecté par les mesures économiques qui ont été faites pendant ces quatre années-là de présidence Biden.
Tu vas-tu lire le livre?
Oui, ben je dois l'avoir eu. Je n'ai pas été à Québec depuis le début de la semaine, alors il doit être entré. Je n'ai pas eu de notification, mais il y avait des retards parce que je l'ai fait venir par Amazon. Là.
Ouais.
Il y a des retards encore de livraison là, parce que moi, il a été très en demande, ce livre-là.
Quand tu auras fini de le lire, tu me le prêteras, ça va me coûter moins cher. Je profite des gens plus riches.
Oui, es-tu capable de lire l'anglais?
Ben oui.
C'est vrai, tu n'as pas besoin d'être camionneur, toi, tu peux juste parler français.
Exact. Salut, Louis Gauthier!
Salut, bonne journée tout le monde.
Bye-bye. À quoi faisait référence Louis Gauthier? Tu n'étais pas avec nous autres hier. On a parlé avec Benoît Thérien de Truck Stop Québec. Trump veut cibler les camionneurs un peu louches de l'Ontario qui arrivent de leur pays, obtiennent des permis un peu...
bric-à-brac.
Bric-à-brac. Et après ça, s'en vont aux États-Unis, se ramassent sens contraire, font des mises en portefeuille pour on ne sait quelle raison.
Mais ça nous arrive aussi au Canada, puis ça bouge moins qu'aux États-Unis. Donald Trump, je laisse ça, par exemple.
Puis c'est aussi les camionneurs mexicains qui arrivent aux États-Unis puis qui ne parlent pas anglais. Est-ce qu'on devrait faire la même chose avec les camionneurs ontariens qui n'ont pas de formation puis qui s'en viennent sur nos routes au Québec? À un moment donné, il va falloir réfléchir à ça. Tu sais, ce qui s'est passé à Vallée-Jonction, ça a tué une personne. Ces gens-là ont des armes dans les mains, n'ont pas les qualifications pour, sont incapables de parler anglais ou encore français, ont de la difficulté à comprendre c'est quoi un sens unique. Tu sais, des fois, là, tu dis, voyons, Marceau, t'en rajoutes. Mais c'est ça, là. C'est ce qu'on voit dans les reportages de JE, dans les reportages de la presse,
c'est
ce qu'on voit.
Mais c'est qu'il y a des dossiers sensibles, sauf qu'ils ne devraient pas être sensibles quand on parle de sécurité publique.
Bien, c'est parce que ça représente une communauté.
Qui, c'est ça, puis ils se parlent, puis ils le voient. Puis si on parlait, mettons, de racisme, ou ils vont voler nos jobs, on l'utiliserait autrement, notre micro. Là, le problème, c'est qu'il y a de la sécurité publique. Ce qu'on a vu à reculer sur une autoroute dernièrement, ça se peut un accident, ça se peut un incident. Mais le camion aussi qui a bloqué à la hauteur des ponts de mémoire, là, puis il est en portefeuille, puis qu'est-ce qui s'est passé là? Il nous faut des enquêtes assez approfondies pour comprendre ce qui s'est passé. S'il y a un manque de formation, on va aller à la source, puis on va en donner. Que ce soit des gens qui arrivent de l'immigration, que ce soit des gens du Québec, que ce soit peu importe qui, des camions comme ceux-là, c'est de la sécurité publique.
13h22 minutes. Dans quelques secondes, on va recevoir un gars qui va faire probablement le calendrier des pompiers 2026.
Passe aussi.
C'est les rumeurs qui courent à Québec. Bill Noonan, qui est relationniste au service incendie de la ville de Québec, va venir faire son tour. On va parler de la fameuse journée porte ouverte qui va avoir lieu dans les casernes de la ville de Québec le 31 mai prochain. Donc, ce week-end, les amis, une belle activité à faire avec ses enfants. Laissez les madames à la maison. Parce que sinon, ça se peut que...
Ton ego est fragile.
Oui, c'est...
Ton ego est fragile, Yannick. Oui. Travaille sur ta force interne. Tu ne seras jamais stimulé par le fait que ta blonde va voir un pompier.
Moi, je ne savais pas qu'elle était de même. À un moment donné, j'arrive chez nous, je venais juste d'acheter ma maison. Fait qu'il était trop tard pour la remplacer. Je venais juste d'acheter ma maison. Puis là, je dis, « Hey, il y a les pompiers au bout de la rue. » Et moi, je monte en haut, deuxième étage, porter mon sac à dos, mes affaires. Je redescends en bas. Plus personne dans la maison.
Les mais elle voulait filles, savoir si tout le monde était en sécurité.
Les deux filles qui étaient là quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne dans la maison. Je disais, allô, est-ce que vous êtes là? Ils sont partis pendant 25 minutes.
Ben, c'est normal, c'est dans leur rue. Là. Ils s'inquiétaient pour leurs voisins.
C'était une vérification. Il n'y avait même pas de feu. Il n'y avait même pas de feu.
Tant que tu n'as pas vu, tu ne sais pas.
Ah, les maudits pompiers. Ah, 13h23, on vient.
Marceau, le midi.